Honoré de Balzac. Splendeur et misère des courtisanes. Première partie. La fille repentie. Esther heureuse. Chapitre 1. Une vue du bal de l'opéra. En 1824, au dernier bal de l'opéra, plusieurs masques furent frappés de la beauté d'un jeune homme qui se promenait dans les corridors et dans le foyer avec l'allure des gens en quête d'une femme que des circonstances imprévues retiennent au logis. Le secret de cette démarche, tour à tour indolente et pressée, n'est connu que des vieilles femmes et de quelques flâneurs émérites. Dans cet immense rendez-vous, la foule observe peu la foule, les intérêts sont passionnés, le désœuvrement lui-même est préoccupé. Le jeune dandy était si bien absorbé par son inquiète recherche qu'il ne s'apercevait pas de son succès. Les exclamations railleusement admiratives de certains masques, les étonnements sérieux, les mordants lazzi, les plus douces paroles, il ne les entendait pas, il ne les voyait point. Quoique sa beauté le classât parmi ces personnages exceptionnels qui viennent au bal de l'opéra pour y avoir une aventure et qui l'attendent comme on attendait un coup heureux à la roulette quand Frascati y vivait, il paraissait bourgeoisement sûr de sa soirée. Il devait être le héros d'un de ces mystères à trois personnages qui composent tout le bal masqué de l'opéra et connu seulement de ceux qui y jouent leur rôle. Car pour les jeunes femmes qui viennent afin de pouvoir dire « j'ai vu », pour les gens de province, pour les jeunes gens inexpérimentés, pour les étrangers, l'opéra doit être alors le palais de la fatigue et de l'ennui. Pour eux, cette foule noire, lente et pressée, qui va, vient, serpente, tourne, retourne, monte, descend, et qui ne peut être comparée qu'à des fourmis sur leur tas de bois, n'est pas plus compréhensible que la bourse pour un paysan bas-breton qui ignore l'existence du grand livre. À de rares exceptions près, à Paris, les hommes ne se masquent point. Un homme en domino paraît ridicule. En ceci, le génie de la nation éclate. Les gens qui veulent cacher leur bonheur peuvent aller au bal de l'opéra sans y venir, et les masques absolument forcés d'y entrer en sortent aussitôt. Un spectacle des plus amusants est l'encombrement que produit à la porte, dès l'ouverture du bal, le flot des gens qui s'échappent aux prises avec ceux qui y montent. Donc les hommes masqués sont des maris jaloux qui viennent espionner leurs femmes ou des maris en bonne fortune qui ne veulent pas être espionnés par elles, deux situations également moquables. Or le jeune homme était suivi, sans qu'il le sût, par un masque assassin, gros et court, roulant sur lui-même comme un tonneau. Pour tout habitué de l'opéra, ce domino trahissait un administrateur, un agent de change, un banquier, un notaire, un bourgeois quelconque en soupçon de son infidèle. En effet, dans la très haute société, personne ne court après d'humiliants témoignages. Déjà, plusieurs masques s'étaient montrés en riant ce monstrueux personnage, d'autres l'avaient apostrophé, quelques jeunes s'étaient moqués de lui. Sa carrure et son maintien annonçaient un dédain marqué pour ses traits sans portée. Il allait où le menait le jeune homme, comme va un sanglier poursuivi qui ne se soucie ni des balles qui sifflent à ses oreilles, ni des chiens qui aboient après lui. Quoiqu'au premier abord, le plaisir et l'inquiétude aient pris la même livrée, l'illustre robe noire vénitienne, et que tout soit confus au bal de l'opéra, les différents cercles dont se compose la société parisienne se retrouvent, se reconnaissent et s'observent. Il y a des notions si précises pour quelques initiés que ce grimoire d'intérêt est lisible comme un roman qui serait amusant. Pour les habitués, cet homme ne pouvait donc pas être en bonne fortune. Il eût infailliblement porté quelques marques convenues, rouges, blanches ou vertes, qui signalent les bonheurs apprêtés de longue main. S'agissait-il d'une vengeance? En voyant le masque suivant de si près un homme en bonne fortune, quelque désœuvré revenait au beau visage sur lequel le plaisir avait mis sa divine auréole. Le jeune homme intéressait. Plus il allait, plus il réveillait de curiosité. Tout en lui signalait d'ailleurs les habitudes d'une vie élégante. Suivant une loi fatale de notre époque, il existait peu de différence, soit physique, soit morale, entre le plus distingué, le plus élevé des fils d'un duc et père, et ce charmant garçon que naguère la misère étreignit de ses mains de fer au milieu de Paris. La beauté, la jeunesse pouvaient masquer chez lui de profonds abîmes, comme chez beaucoup de jeunes gens qui veulent jouer un rôle à Paris sans posséder le capital nécessaire à leurs prétentions et qui, chaque jour, risquent le tout pour le tout en sacrifiant au dieu le plus courtisé dans cette cité royale, le hasard. Néanmoins, sa mise, ses manières, étaient irréprochables, il foulait le parquet classique du foyer en habitué de l'opéra. Qui n'a pas remarqué que là, comme dans toutes les zones de Paris, il est une façon d'être qui révèle ce que vous êtes, ce que vous faites, d'où vous venez et ce que vous voulez ? Le beau jeune homme ! Ici, l'on peut se retourner pour le voir, dit un masque en qui les habitués du bal reconnaissaient une femme comme il faut. « Vous ne vous le rappelez pas ?» lui répondit le cavalier. « Madame du Châtelet vous l'a cependant présenté. »« Quoi ? C'est le petit apothicaire de qui elle s'était amourachée ? Qui s'est fait journaliste ? L'amant de Mademoiselle Coralie ?»« Je le croyais tombé trop bas pour jamais pouvoir remonter, et je ne comprends pas comment il peut reparaître dans le monde de Paris, » dit le comte Sixte du Châtelet. Il a un air de prince, dit le masque, et ce n'est pas cette actrice avec laquelle il vivait qui le lui aura donné. Ma cousine, qui l'avait deviné, n'a pas su le débarbouiller. Je voudrais bien connaître la maîtresse de ce sargine. Dites-moi quelque chose de sa vie qui puisse me permettre de l'intriguer. Ce couple qui suivait le jeune homme en chuchotant fut alors particulièrement observé par le masque aux épaules carrées. « Cher monsieur Chardon, dit le préfet de la Charente en prenant le dandy par le bras, je vous présente une personne qui veut renouer connaissance avec vous. »« Cher comte Châtelet, répondit le jeune homme, cette personne m'a appris combien était ridicule le nom que vous me donnez. Une ordonnance du roi m'a rendu celui de mes ancêtres maternels, les Rubempré. Quoique les journaux aient annoncé ce fait, il concerne un si pauvre personnage que je ne rougis point de le rappeler à mes amis, à mes ennemis et aux indifférents. Vous vous classerez où vous voudrez, mais je suis certain que vous ne désapprouverez point une mesure qui me fut conseillée par votre femme quand elle n'était encore que Madame de Bargeton. » Cette jolie épigramme qui fit sourire la marquise fit éprouver un tressaillement nerveux au préfet de la Charente. « Vous lui direz, ajouta Lucien, que maintenant je porte de gueule au taureau furieux d'argent dans le pré de Sinople. »« Furieux d'argent ? » répéta Châtelet. « Madame la marquise vous expliquera, si vous ne le savez pas, pourquoi ce vieil écusson est quelque chose de mieux que la clé de Chambellan et les abeilles d'or de l'Empire qui se trouvent dans le vôtre, au grand désespoir de Madame Châtelet, née Nègrepelisse d'Espard, » dit vivement Lucien. « Puisque vous m'avez reconnu, je ne puis plus vous intriguer et ne saurais vous exprimer à quel point vous m'intriguez, » lui dit à voix basse la marquise d'Espard, tout étonnée de l'impertinence et de l'aplomb acquis par l'homme qu'elle avait jadis méprisé. « Permettez-moi donc, madame, de conserver la seule chance que j'ai d'occuper votre pensée en restant dans cette pénombre mystérieuse, » dit-il avec le sourire d'un homme qui ne veut pas compromettre un bonheur sûr. La marquise ne put réprimer un petit mouvement sec en se sentant, suivant une expression anglaise, coupée par la précision de Lucien. « Je vous fais mon compliment sur votre changement de position, » dit le comte du Châtelet. « Et je le reçois comme vous me l'adressez, » répliqua Lucien en saluant la marquise avec une grâce infinie. « Le fat !» dit à voix basse le comte à Madame d'Espard. « Il a fini par conquérir ses ancêtres. » Chez les jeunes gens, la fatuité, quand elle tombe sur nous, annonce presque toujours un bonheur très haut situé, car, entre vous autres, elle annonce la mauvaise fortune. Aussi voudrais-je connaître celle de nos amis qui a pris ce bel oiseau sous sa protection. Peut-être aurais-je alors la possibilité de m'amuser ce soir. Mon billet anonyme est sans doute une méchanceté préparée par quelque rival, car il est question de ce jeune homme. Son impertinence lui aura été dictée. Espionnez-le. Je vais prendre le bras du duc de Navarreins. Vous saurez bien me retrouver. » Au moment où Madame d'Espard allait aborder son parent, le masque mystérieux se plaça entre elle et le duc pour lui dire à l'oreille « Lucien vous aime. Il est l'auteur du billet. Votre préfet est son plus grand ennemi. Pouvait-il s'expliquer devant lui ?» L'inconnu s'éloigna, laissant Madame d'Espard en proie à une double surprise. La marquise ne savait personne au monde capable de jouer le rôle de ce masque. Elle craignit un piège, alla s'asseoir et se cacha. Le comte Sixte du Châtelet, à qui Lucien avait retranché son « dû » ambitieux avec une affectation qui sentait une vengeance longtemps rêvée, suivit à distance ce merveilleux dandy et rencontra bientôt un jeune homme auquel il crut pouvoir parler à cœur ouvert. « Eh bien, Rastignac, avez-vous vu Lucien ? Il a fait peau neuve. Si j'étais aussi joli garçon que lui, je serais encore plus riche que lui, » répondit le jeune élégant d'un ton léger mais fin qui exprimait une raillerie attique. « Non !» lui dit à l'oreille le gros masque, en lui rendant 1000 railleries pour une, par la manière dont il accentua le monosyllabe. Rastignac, qui n'était pas homme à dévorer une insulte, resta comme frappé de la foudre et se laissa mener dans l'embrasure d'une fenêtre par une main de fer qu'il lui fut impossible de secouer. « Jeune coq, sorti du poulailler de maman Vauquet, vous à qui le cœur a failli pour saisir les millions du papa Taillefer quand le plus fort de l'ouvrage était fait, sachez pour votre sûreté personnelle que si vous ne vous comportez pas avec Lucien comme avec un frère que vous aimeriez, vous êtes dans nos mains sans que nous soyons dans les vôtres. Silence et dévouement, ou j'entre dans votre jeu pour y renverser vos quilles. Lucien de Rubempré est protégé par le plus grand pouvoir d'aujourd'hui, l'Église. Choisissez entre la vie ou la mort. Votre réponse ? » Rastignac eut le vertige comme un homme endormi dans une forêt et qui se réveille à côté d'une lionne affamée. Il eut peur, mais sans témoin. Les hommes les plus courageux s'abandonnent alors à la peur. « Il n'y a que lui pour savoir et pour oser », se dit-il à lui-même. Le masque lui serra la main pour l'empêcher de finir sa phrase. « Agissez comme si c'était lui », dit-il.